OCAPI clôture le mois de la femme avec ses deux programmes interactifs. OCAPI Service et Parole aux auditeurs, ce jeudi 31 mars 2016, de 9h à 11h à l'ISP Gombe.
Radio OCAPI en direct de l'ISP Gombe à l'occasion.
Bienvenue dans Parole aux auditeurs, ces cadres d'échanges citoyens.
Au programme, égalité des sexes, autonomisation de la femme et leadership féminin. Hommes, femmes et vous tous qui militez pour la promotion de la femme,
venez nombreux participer à ce rendez-vous spécial.
Merci beaucoup pour la parole. Donc, nous sommes en train de parler pas seulement de l'ISP, mais pour toutes les universités et institutions supérieures.
Bonjour Radio OCAPI. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole aujourd'hui. On parle...
OCAPI Service et Parole aux auditeurs à l'ISP Gombe ce jeudi 31 mars avec...
Jody Daniel Kachama et J.R. Lungembo.
En République démocratique du Congo, les populations autochtones possèdent des terres, mais malheureusement, elles n'ont pas des titres de propriété. Conséquence, ces peuples autochtones se retrouvent expropriés au profit de l'État ou encore au profit des opérateurs économiques pour d'autres fins. Et pour sécuriser les droits de ces populations sur leurs terres, Forest People Program a organisé un atelier sur le processus de la réforme foncière qui est en cours. Alors, pour en savoir plus, nous recevons Monsieur Patrick Kipalou, coordonnateur national des Forest People Program. Que veut dire, encore une fois, bonjour, que veut dire Forest People Program?
Merci beaucoup. Forest People Program est une organisation non gouvernementale de droit britannique qui travaille, qui a pour mission de soutenir les communautés forestières dans leur lutte pour la sécurisation de leurs droits coutumiers. En français, nous pouvons dire un programme des peuples des forêts. En anglais, nous disons...
Les pygmées, on parle beaucoup plus.
En République démocratique du Congo, oui, les peuples autochtones sont appelés vulgairement pygmées. Voilà, nous travaillons, FPP travaille beaucoup dans plusieurs pays en Amérique latine. Nous sommes aussi en Asie du Sud-Ouest et en Afrique, nous travaillons dans 12 pays, y compris la République démocratique du Congo.
Alors, on parle aujourd'hui de ces peuples autochtones qui dont les droits sur leurs terres ne sont plus garantis. Alors, quelles sont les raisons ou les causes?
Merci beaucoup pour cette question. Il faudra d'abord noter que les communautés autochtones sont de peuples qui ont une façon de vivre assez particulière comparée à d'autres communautés qui composent la population de la République démocratique du Congo. Je voulais citer ici les Soudanais ou bien les Bantous en RDC. Les communautés autochtones ont un style de vie qui est vraiment particulier et différent. Ils vivent d'une façon très attachés à leur terre coutumière dans les forêts et ils ont une vie qui n'est pas centrée ou bien focalisée à un même endroit sur toute la durée de la vie, c'est-à-dire ils bougent beaucoup parce que naturellement ou bien selon leur pratique, selon leur coutume, ils ne pratiquent pas vraiment l'agriculture. Ce sont des communautés qui vivent de la cueillette et de la chasse, ce qui veut dire qu'ils bougent beaucoup à travers les temps à différents endroits de leur forêt et beaucoup de recherches prouvent que les communautés autochtones sont des premiers habitants de notre pays, mais ils n'ont pas de titres sur leur terre coutumière, ce qui contribue à leur vulnérabilité et ils se retrouvent plusieurs fois expropriés pour différentes raisons. Nous travaillons avec beaucoup de partenaires locaux en République démocratique du Congo pour essayer d'assister ces communautés-là à sécuriser leurs droits coutumiers fonciers. En fait, ce que je peux signaler ici, c'est que notre législation actuellement au pays reconnaît les droits coutumiers fonciers, mais elle ne les garantit pas, elle ne les sécurise pas. Et nous sommes en train d'essayer avec ces communautés et avec nos partenaires locaux de vouloir profiter avec cette opportunité que le gouvernement a ouvert avec la réforme foncière en cours, essayer d'influencer ces processus de réforme pour que à la fin nous puissions aboutir à une nouvelle loi foncière dans les pays qui reconnaît mais aussi qui sécurise le droit foncier coutumier des communautés forestières.
Donc on peut dire que ces peuples autochtones qui passent leur vie dans la forêt ont directement un droit, des droits directement sur les terres. Bien qu'ils n'ont pas, il semble que certaines n'ont pas de titre de propriété.
tous ces peuples-là n'ont pas ils peuvent pas te présenter un papier, hein, qui peut être comme un titre de propriété ou un certificat de propriété d'une certaine portion de terre. Et ça, c'est la même chose pour toutes les communautés, dans les milieux ruraux à travers la République démocratique du Congo. Le droit coutumier en RDC sont reconnus, mais, ils ne sont pas sécurisés. Si vous partez même dans votre village, vos ancêtres qui sont là-bas, vous avez des forêts qui appartiennent à vos clans, à vos
ethnies. Il n'y a pas de titre de propriété.
Il n'y a pas de titre de propriété. Ça veut dire que ces communautés peuvent se retrouver expropriées à n'importe quel moment. Donc, nous pensons aussi que vis-à-vis des différentes initiatives internationales qui sont en train d'être mises en place aujourd'hui pour sécuriser les forêts dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, beaucoup d'initiatives ont des effets ou des impacts ou affectent les forêts, hein, dont dépendent où vivent ces communautés-là. Et nous pensons que ces communautés doivent avoir un mot, hein, doivent avoir quelque chose à dire par rapport à toutes ces initiatives-là, qui visent les forêts de ces communautés-là. C'est pourquoi la sécurisation de leurs droits coutumiers fonciers est importante.
Voilà. Et que représentent ces forêts pour ces populations autochtones?
Très bonne question. Ces forêts représentent tout pour les populations autochtones. C'est dans ces forêts-là que les communautés autochtones trouvent les médicaments dont ils ont besoin pour se faire soigner. C'est dans ces forêts-là que les communautés autochtones trouvent leur nourriture de tout le jour. C'est dans ces forêts-là qu'ils vivent, c'est leur maison, c'est leur pharmacie, c'est leur supermarché. C'est dans ces forêts-là qu'ils ont leur site des rituels, leur site sacré. C'est dans ces forêts-là qu'ils ont leur cimetière, ils ont enterré leurs membres de famille, leurs ancêtres, tout. C'est dans ces forêts-là qu'ils font tout. Au fait, de la même façon que toi et moi, nous vivons en ville et la ville représente tout pour nous, pour les communautés autochtones, la forêt, c'est leur vie. Si nous coupons, nous détruisons toutes les forêts, nous détruisons au même moment les communautés autochtones parce que leur mode de vie dépend et sont intrinsèquement liés à la forêt.
Et on peut dire que beaucoup de ces communautés ont déjà perdu leur terre à RDC.
Beaucoup de ces communautés-là ont perdu leur terre à
travers
l'épée.
Ou par exemple,
je peux vous donner un exemple. Nous sommes actuellement en train d'assister plusieurs communautés dans la province du Sud Kivu, dans le territoire des Kaleye, à Bounia, Kiri et à Kabare, des communautés qui ont été expulsées de leurs terres vers les années 60-70 pour la création du parc national des Kahuzi-Biega. Donc, pour votre information, ce parc-là des Kahuzi-Biega est établi sur des terres, sur les forêts qui appartiennent à plusieurs communautés autochtones pygmées. Le gouvernement à l'époque avait tout simplement pris la décision de pouvoir expulser ces communautés-là et décider d'établir cette zone en une aire protégée que nous appelons aujourd'hui le parc national des Kahuzi-Biega. Et depuis lors, le gouvernement n'avait jamais casé ces communautés-là quelque part. Elles n'avaient jamais reçu, des compensations ou bien d'autres terres en échange. Mmh. Et depuis lors, elles vivent sur d'autres terres étrangères où elles sont considérées comme des esclaves. Donc nous essayons d'initier un processus de dialogue, un mécanisme d'échange entre ces communautés-là, les gouvernements aujourd'hui, l'Institut pour la conservation de la nature et tous les autres partenaires ou acteurs qui travaillent dans le domaine de développement et conservation dans la zone pour essayer d'arriver au point où l'État reconnaît le droit coutumier foncier de ces communautés sur les terres de Kahuzi-Biega et l'État essaye de corriger ces injustices historiques.
Bien, deux auditeurs en ligne. Nassor Moussa nous appelle de Kindu et Patrick Kamboulou de Kikwit. Vous voulez également participer à cette émission, appelez au 081-890-63-94.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Comment aider les populations autochtones à sécuriser leurs droits sur les terres coutumières? Nassor Moussa, vous êtes à Kindu, bonjour.
Oui, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Ce que moi je veux demander à l'invité, je suis un peu bref, concernant la thématique d'aujourd'hui.
Oui.
J'ai juste des préoccupations à demander à l'invité. La première préoccupation concerne les objectifs envers les communautés. Ma seconde préoccupation, je veux juste savoir sur cet enjeu, je ne sais pas si c'est une société, si ça va voir toutes les communautés de la République démocratique du Congo. Je dis et je vous remercie.
Bien, merci. Patrick Kamboulou de Kikwit, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quelle est votre question?
Oui, j'ai une préoccupation. Je vais demander à l'invité. L'initiative est bonne, mais justement, c'est une population qui a un problème de complexe d'infériorité. Après la sécurisation des forêts, coutumes, tout ça, est-ce qu'ils n'ont pas prévu des temps d'encadrement, soit des formations pour instruire cette population?
D'accord. Merci, monsieur Patrick, équipe Alou.
Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire merci à notre ami Nassor Moussa depuis la ville de Kindu. Nassor, je vais répondre à ta question, la première, pour dire que Forest People's Program est une organisation sans but lucratif. Donc, nous travaillons avec les communautés juste pour les aider à promouvoir la sécurisation, la protection de leurs droits fonciers. Et est-ce que nous avons l'idée de pouvoir intervenir avec toutes les communautés à travers la République démocratique du Congo? Oui, ça c'est un souhait, mais nous n'avons pas de moyens de pouvoir les faire. Quand je parle de moyens, je pense aux moyens financiers, mais aussi je pense au temps et aux ressources humaines. Donc pour pouvoir travailler dans un grand pays comme la RDC, couvrir tous les pays, donc il faut beaucoup, beaucoup de capacités que Forest People's Program n'a pas pour le moment. Donc, à cause de cette raison, nous essayons de focaliser nos interventions à certains endroits où nous pouvons identifier des possibilités de succès beaucoup plus rapidement et là où nous pensons que nos moyens disponibles sont capables d'affecter positivement la situation sur le terrain. Merci beaucoup.
Et Patrick dit que ces populations autochtones souffrent d'un complexe d'infériorité. Qu'est-ce que vous faites pour les aider aussi à résoudre ces problèmes?
Merci beaucoup Patrick Akikwit. C'est une bonne question. Il a parlé des formations, si nous organisons...
L'encadrement.
Si nous essayons d'encadrer ces communautés-là. Oui, nous travaillons avec beaucoup d'organisations non gouvernementales locales, c'est-à-dire de droit congolais ici. Et à travers ces organisations, nous mettons en place beaucoup des séries ou des sessions, des formations sur les questions de droit, principalement, sur des questions de genre et sur d'autres questions de développement local. Et tout cela pour essayer de renforcer les capacités des communautés autochtones à différents endroits où ils se trouvent pour qu'ils soient capables de participer et de contribuer au développement socio-économique local dans leur milieu.
Georges, vous êtes à Manono, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody Daniel Kachama, bonjour aussi à notre invité.
Quelle est votre question, Georges?
J'aimerais demander à l'invité, pour la plupart, cette communauté-là, c'est une communauté qui aime trop l'indépendance. Et si vous les trouvez, ils aiment trop dépendre, par exemple, des bantous ici chez nous. Et pour travailler, ils travaillent chez les gens pour avoir peut-être la nourriture. Est-ce que ce n'est pas peut-être une dépendance qui fait qu'on les récupère des choses un peu facilement? Alors pour la deuxième préoccupation, M. Jody, cette communauté-là n'aime pas rester sur une place. Il suffit peut-être qu'il y ait la mort d'une personne, cette communauté se déplace facilement. Alors j'aimerais demander à l'invité qu'est-ce qu'ils font pour essayer de convaincre ces gens-là de rester une place et qu'ils puissent garder ces biens dans une même place. Voilà tout, M. Jody.
Bien, il dit que les populations autochtones dépendent des bantous. Est-ce que c'est pas la raison qui fait qu'on puisse les déposséder de ces terres coutumières? Et puis il dit que c'est les autochtones sont des peuples nomades qui bougent à tout moment. Alors du fait qu'ils bougent tout le temps, donc il est difficile de sécuriser leurs terres.
Merci beaucoup, Georges, pour tes deux questions. Elles sont intéressantes. Je commencerai pour dire, tu parles des dépendances des communautés autochtones sur les communautés bantoues. Je crois que les bantous ou d'autres communautés qui vivent autour des communautés autochtones, je n'accuse pas, mais j'ai dit que... À certains endroits, sous certaines circonstances, des conditions sont créées pour pouvoir faire en sorte que les communautés autochtones deviennent dépendantes des autres communautés. Par exemple, lorsqu'elles sont dépossédées de leurs terres et qu'elles n'ont plus de terres où construire leurs petites huttes ou aller faire la chasse, donc elles sont obligées de se rabattre quelque part. Et lorsque elles vont sur une terre quelque part, d'office, elles deviennent comme des esclaves ou des dépendantes de ces communautés qui les reçoivent. Donc je pense bien que ce sont des conditions, c'est à cause des circonstances que ces communautés ont rencontrées qui ont fait qu'elles vivent de la manière dont elles vivent aujourd'hui. Parce que à travers les pays là où il y a des autochtones qui vivent encore dans leur milieu naturel et qui ne font pas encore face à certaines menaces, elles ne dépendent pas d'une communauté à côté. Elles font leur vie normalement. Donc je crois qu'il faut mettre à la disposition de ces communautés toutes les conditions nécessaires, tous les avantages et toutes les opportunités et pouvoir voir si elles continueront à être dépendantes ou pas. À la deuxième question, tu dis ces communautés n'aiment pas
ne restent pas à
un même endroit pendant longtemps. Je crois que la charte des Nations Unies pour les droits humains reconnaît à chaque peuple le droit à l'autodétermination. On ne peut pas imposer à une communauté ou à un peuple une certaine façon de vivre, un certain mode de vie. Chaque communauté est libre de choisir son mode de vie. Mais quand
vous bougez à tout moment, vous risquez de perdre vos terres.
Il bouge à tout moment sur une certaine superficie, sur une certaine portion de terre. Donc, je crois que si quelqu'un a sa maison ici et il laisse sa maison pour voyager, il reviendra l'année prochaine. On peut pas dire que c'est une raison pour aller lui ravir sa maison. Donc ces communautés ont droit à choisir leur mode de vie, et dans leur mode de vie, ils vivent et ils bougent pour aller faire la chasse, pour aller collecter les miels, les chenilles, pour aller faire certaines activités dans la forêt et revenir plus tard. Je crois que nous ne pouvons pas les condamner à cause de leur style de vie.
D'accord. Samuel nous appelle depuis Arou et ingénieur Mangoyo depuis Kinshasa. Samuel, bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question, Samuel?
Bon, je me pose une question.
Allez-y rapidement.
C'est-à-dire, si Arou, par exemple, les gens découpent les forêts sans autorisation de l'État, est-ce que si l'État prend une décision, ça ne va pas être mauvais là-bas?
Bon, ça c'est pas le thème du jour. Merci d'avoir appelé. Ingénieur Mangoyo, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Jerry.
On vous écoute.
Merci, je salue d'abord notre invité.
Merci.
J'ai quelques préoccupations. Je voudrais que notre invité nous dise la notion des autochtones est liée seulement aux Pygmées, parce que lorsqu'on parle des autochtones, on fait souvent allusion aux Pygmées. Alors, si tel n'est pas le cas, si par autochtones, on comprend par là les gens qui habitent les milieux ruraux. Alors, je voudrais un peu contredire ce que notre invité a dit là. Moi, j'ai vécu au village. Je sais comment le village à l'époque fonctionnait. Donc, dire que dans les milieux ruraux, il n'y a pas de documents qui, en fait, attestent justement l'appartenance, comment dire, et les terres, je pense qu'il a trop, c'est trop dire ça, parce que moi je me rappelle, mon papa fut sous-préfecteur, mais on voyait des documents, des cartes qui expliquaient telle communauté, votre terre commence ici, il s'arrête là-bas, et on a montré, il y avait des papiers comme ça. Alors quand il dit, c'est pas moi le titre, il fait allusion à quoi? Et qu'il m'explique un peu bien la notion des autochtones. C'est seulement lié aux Pygmées. Et puis, si tel est le cas, en ce 21e siècle, doit-on continuer à laisser les gens comme ça dans les forêts, presque nus?
D'accord. Merci, ingénieur Mangoyo. Monsieur Patrick Kipalo.
Salutations, ingénieur Mangoyo. Merci beaucoup pour vos deux questions. Elles sont vraiment intéressantes. Je commencerai par répondre à la première question. Vous avez totalement raison. La question des définitions des peuples autochtones fait l'objet de beaucoup de discussions à travers le monde entier. C'est une question pertinente et même dans beaucoup de réunions au niveau international, même dans les Nations Unies, on continue à discuter sur qui est autochtone et qui ne l'est pas. Et pour les cas d'espèces ici, maintenant, en République démocratique du Congo, nous considérons ici comme communautés autochtones les communautés que nous appelons vulgairement communautés pygmées, qui sont différentes des autres communautés par leur façon de vivre, à travers leur attachement à leur terre coutumière et à leur forêt, mais aussi par leur façon, par leur vulnérabilité, hein. La question de la vulnérabilité et la discrimination auxquelles font face les communautés autochtones est aussi une des particularités de ces communautés-là. Chaque communauté peut dire, par exemple, que je suis autochtone sur ma terre. Oui, on te les concède, on te les refuse pas. Mais lorsque nous parlons de communautés autochtones, ici, nous faisons allusion aux communautés pygmées, c'est-à-dire des communautés qui ont un mode de vie différent des autres, avec un attachement particulier à leur terre et qui font objet d'une vulnérabilité et discrimination particulière qui cause même la pauvreté auquel ils sont en train de faire face aujourd'hui. Deuxième question, par rapport à la question de droits coutumiers fonciers, je parle ici par en fonction de la loi foncière disponible actuellement dans notre pays. Vous parlez des cartes qu'on vous envoyait, par exemple, pour vous dire que votre forêt commence ici et s'arrête là. Ça, c'est bien. Ça, ce sont des petits instruments, comme nous pouvons appeler ça comme ça, qui peuvent vous aider, par exemple, lorsque vous êtes en dispute avec les communautés voisines sur les questions des terres. Vous
pouvez D'ailleurs, il y a souvent des conflits comme ça, dans nos villages, des conflits des terres.
Exactement. Et alors, dans des cas comme ça, vous pouvez vous mettre ensemble avec les communautés voisines, essayer de dessiner les cartes de vos terres, de chaque tribu ou ethnie, dire que notre terre commence ici, se termine là et la vôtre commence là, va jusqu'à tel endroit, et les autorités administratives locales peuvent sanctionner ces cartes-là pour être comme des instruments de négociation ou des instruments de témoignage. Mais ça, nous pouvons pas appeler ça comme des titres de propriété ou des certificats de propriété. Par exemple, si vous rentrez dans toutes ces communautés-là, il n'y a pas une seule communauté qui peut vous produire un document, comme nous disons titre de propriété. Propriété octroyée par l'État, ou ça n'existe pas. Nous voulons donc évoluer vers une loi foncière qui reconnaît pas seulement les forêts coutumières ou les terres coutumières des communautés locales, mais aussi qui les sécurise en offrant ou bien en octroyant des titres sur ces terres-là. C'est-à-dire une tribu peut sortir, peut avoir une portion de terre et puis obtenir ou bien présenter un titre de propriété sur cette portion de terre.
Et c'est de cette façon qu'on peut sécuriser leurs terres.
C'est de cette façon qu'on peut sécuriser les terres des communautés
les terres coutumières.
Les terres coutumières, voilà. L'année passée, par exemple, au mois d'août, le premier ministre actuel, son excellence Augustin Matata Ponyo, a signé un décret qui autorise la foresterie communautaire en République démocratique du Congo. En fait, ça, c'est un décret qui donne l'opportunité aux communautés de pouvoir constituer un dossier de demande et d'obtention d'une forêt communautaire que l'État leur accorde pour une durée perpétuelle. C'est-à-dire, si une communauté reconnaît de droits coutumiers sur une portion des terres,
l'État délivre un document.
Voilà. Donc, cette communauté peut constituer un dossier, selon l'arrêté signé par les ministres récemment, et faire une demande des forêts communautaires qui leur est octroyée par l'État, qui leur donne un petit papier qui est pour une durée perpétuelle.
Et c'est de cette façon qu'on peut arriver à sécuriser.
Ça, c'est juste une fenêtre. C'est que nous, nous voulons. L'idéal, oui. Ça serait la reconnaissance officielle des droits coutumiers par l'État et leur sécurisation. Les décrets du Premier ministre donnent seulement une fenêtre. C'est seulement un pas, mais ce n'est pas la reconnaissance officielle que nous voulons.
Ismaël Mumpoy est à Lubumbashi, Shukrani à Kindu, Jean-Pierre Benanga, il est à Yaouma. Ismaël de Lubumbashi, bonjour, et quelle est votre question?
Bonjour, je suis Daniel Kachama. Bonjour à tout le monde.
Quelle est votre question, Ismaël?
Ma préoccupation vraiment est celle-ci. Bon, quand je dis qu'il se trouve les peuples autochtones, je vois que c'est seulement la stigmatisation de ce peuple. Même au niveau central, je vois que ce peuple ne peut plus aucun rang. C'est ça ce qui est comme problème. La question que je devais donner, poser à l'invité, c'est de savoir à leur niveau. Quelle est l'élaboration de la loi pour un peu donner du poids à ces gens, des personnes pourvu qu'ils puissent aussi se sentir à l'aise et vivre comme toute personne. Je suis tel qu'à dire que non, ce sont les peuples qui sont comme l'autre intervenant qui a dit, ce sont les dépendants, ils dépendent de toutes les personnes. Tel que dans cette province, ce sont des personnes qu'on considère pour travail, qu'on les donne seulement pour façon et travail. Maintenant, comment leur donner du poids pour qu'ils soient réintégrés dans le milieu commercial, soit dans l'outil et ainsi de suite. Et ça, c'est que c'est comme ma préoccupation.
Merci. Shukrani, depuis Kindu, bonjour. Et quelle est votre question?
Oui, bonjour. Je dis bonjour à l'invité aussi.
Bonjour.
Nous saluons d'abord l'importance de la question. Moi, je voulais savoir d'abord. Cet ONG-là, Forest People Program, c'est une ONG qui travaille sans but lucratif. Alors, je voulais seulement savoir, est-ce que, comme cette ONG s'occupe seulement des autochtones, c'est seulement les pygmées qui sont bénéficiaires de cet enseignement qui est donné Forest People Program? C'est ça ma question aujourd'hui. Je vous remercie.
Bien. Jean-Pierre Benanga, de Yaouma, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Moi, c'est Jean-Pierre Benanga Bolimokan à Litindi. J'habite à Isangi, mais je suis au responsable de Yaouma, un défenseur des droits de l'homme. Mais j'ai un problème très sérieux. Je vais défendre les pygmées chez nous à Yaouma. Les gens ont fait des associations à Kinshasa. Ils bénéficient au nom des pygmées. Et pourtant, les pygmées eux-mêmes, qui sont dans la forêt de Yaouma, à 7 km de la route de Mombongo, sont en train de souffrir dans la forêt. Bon, les forêts sont expropriées par les politiciens. On prend les documents à Kinshasa et ainsi de suite. C'est les ministres et ainsi de suite. On dit, bon, toute cette forêt de 20 km ou de 10 km est devenue pour telle. Mais dans cette forêt, il y a des pygmées. Il y a des autochtones. Alors, les autochtones qui restent en forêt, ils n'ont même pas un défenseur en ville où ils ne savent même pas aller prendre des lois pour obtenir des documents d'appartenance ou de propriétaires des forêts. Comment ils vont alors s'approprier de leur forêt? Ils sont discriminés et on ne savent pas puisqu'ils ne sortent même pas, ils ne savent pas même pas les lois pour avoir les documents. Je veux demander à l'invité au tableau, au studio, est-ce que les pygmées, comme ils habitent dans des forêts, ils n'ont même pas l'idée d'avoir un document? Comment ils vont avoir les documents des propriétaires de forêts? Merci, je vous dis et je vous remercie. Je suis de Yaouma, Jean-Pierre Benanga, Bolimokan.
Merci, Monsieur Patrick Ipalo.
Merci beaucoup à tous nos auditeurs. Je vais commencer par répondre à la question de Monsieur Ismaël Mumpoy à Lubumbashi. Je dirais que nous avons travaillé depuis quelques années maintenant avec beaucoup d'organisations de la société civile congolaise et beaucoup de communautés autochtones à travers les pays pour la mise en place d'une proposition de loi qui fait la promotion des droits des communautés autochtones. Mmh. Nous avons trouvé dans l'Assemblée nationale un collectif de parlementaires pour la promotion et la sécurisation des droits des communautés autochtones pygmées. Ce petit collectif au sein de notre parlement est dirigé par le professeur l'honorable professeur Lapika Dimonfou, que je salue en passant. Nous avons fait avec eux des missions à travers tous les pays pour consulter les communautés autochtones et voir quels sont leurs problèmes et récolter leurs idées sur la mise en place d'une proposition de loi qui serait peut-être adoptée par l'Assemblée nationale et promulguée en loi par le président de la République pour promouvoir le droit des communautés autochtones avec l'objectif de pouvoir mettre en place des moyens et des opportunités qui permettent à ces communautés de pouvoir intégrer effectivement la vie sociale, économique et politique du pays. Donc ça, c'est quelque chose sur laquelle nous sommes en train de travailler.
Et ce sera une meilleure façon de sécuriser leurs terres.
Oui, ça va leur offrir une sécurisation de leurs droits coutumiers, mais aussi sécuriser leurs droits au travail, à la santé, à l'éducation, à les droits d'accès aux services de base. Mm-hmm. Parce que les communautés autochtones n'ont même pas accès à ces petits services de base. Donc cette proposition de loi a déjà été élaboré et déposé à la table de l'Assemblée nationale. Nous attendons, nous espérons.
Elle n'est pas encore programmée lors d'une session.
Elle a été programmée déjà 3 fois, mais toujours renvoyée à la session prochaine. Et oui. Maintenant, elle est aussi programmée à cette session du mois de mars. Nous espérons qu'avant la clôture de la session, elle sera discutée. À notre ami Shukra Miyuma Akindu, je veux dire que FPP ne travaille pas seulement avec les communautés autochtones, mais nous travaillons avec toutes les communautés forestières. Seulement, nous travaillons à certains endroits. Nous ne pouvons pas être impliqués à toutes les activités partout, tout simplement parce qu'on n'en a pas les moyens, les capacités. Pour le moment, ce qui nous intéresse beaucoup en RDC, c'est la mise en œuvre du mécanisme de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, les processus RED, parce que ça, c'est un processus international qui affecte ou bien qui cible les forêts, les terres des communautés locales, et nous voulons nous assurer que les communautés locales et autochtones en RDC ont toute l'information nécessaire sur le processus RED et elles peuvent influencer ces processus-là pour leur bien. Donc nous essayons d'intervenir dans les zones à travers les pays où il y a des projets pilotes RED. Donc c'est là que nous intervenons pour le moment.
Mmh. Et Jean-Pierre Yaouma de Yaouma dit qu'à Kinshasa, il y a pas mal d'ONG qui se disent voilà, nous défendons les droits des peuples autochtones, alors que ces gens sont dans leur forêt et ne sont au courant de rien et ils n'ont pas même pas des défenseurs en ville qui peuvent défendre leurs droits par voilà. rapport à leurs droits sur leur terre coutumière.
Oui, ça c'est une très bonne question. En même temps, aujourd'hui, il existe beaucoup des réseaux, des organisations des peuples autochtones qui ont des petites représentations ici à Kinshasa. Je citerai par exemple la dynamique des groupes des peuples autochtones, la DGPA, qui est un grand réseau qui regroupe beaucoup d'organisations des peuples autochtones basées à Kinshasa, mais qui a des antennes à travers tous les pays et qui travaille sur le terrain. Mmh. La DGPA a été le moteur dans les travaux pour les développements de la proposition de la loi sur les peuples autochtones avec notre soutien et le soutien de beaucoup d'autres partenaires. Donc, en dehors de la DGPA, vous avez aussi les REPALEF. Les REPALEF, c'est les réseaux des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers en RDC. Mmh. C'est aussi un grand réseau qui regroupe beaucoup d'organisations des peuples autochtones qui parlent pour la promotion ou pour la sécurisation des droits des communautés autochtones. Ces organisations sont basées ici à Kinshasa, ont des bureaux à Kinshasa, mais elles travaillent en province avec beaucoup de communautés autochtones.
Alors, mais est-ce que le travail de ces réseaux à Kinshasa a un impact réel là-bas pour la sécurisation de leurs droits sur leurs terres?
Je peux dire oui pour les organisations membres de ces réseaux qui travaillent avec Forest People's Program. Parce que moi-même, en tant que coordonnateur des activités, j'ai fait beaucoup d'émissions sur le terrain. Je voyage beaucoup dans différentes forêts, différentes provinces à travers les pays. je connais les conditions des communautés autochtones et je travaille avec ces organisations là-bas à la base. Donc pour certaines organisations, oui, c'est vrai, ils sont à Kinshasa et ils travaillent aussi en province, mais pour d'autres qui peut-être qui font autre chose, peut-être qu'il y en a, mais bon, ça ne manque jamais.
Voilà, ça ne manque jamais. On retient que pour sécuriser les droits de ces peuples autochtones sur leurs terres, d'abord, il faut que le projet de loi soit, que la loi passe au niveau du haut parlement.
Exactement. Et nous voulons aussi influencer les processus de la réforme foncière en cours. Il faut d'abord que ces processus-là soient relancés parce qu'il est un peu, il marche un peu à pas de tortue. Nous demandons donc au gouvernement de relancer effectivement le processus de la réforme foncière et de pouvoir mettre en place des mesures qui, pour la promotion ou la sécurisation de droits fonciers coutumiers des peuples autochtones. C'est-à-dire, la nouvelle loi foncière qui sortira de ces processus de réforme doit être une loi assez courageuse qui reconnaît et qui sécurise les droits des communautés locales et des peuples autochtones sur leurs terres et sur leurs forêts coutumières.
Donc, on doit leur délivrer des documents qui prouve que cette portion de la forêt les appartient à cette communauté.
Nous faisons les plaidoyers pour avancer à vers ces niveaux-là, là où les droits écrits et les droits coutumiers sur les questions foncières seront au même pied d'égalité.
Bien, Patrick Ipalou, coordonnateur national des Forest People Program, merci et bonne journée.
C'est moi qui vous remercie.